Athénicien, vous passerez toujours, surtout néoplatonicien. Aristote, ça passe pas à la porte. Faut prendre un souterrain. Tu vois, une astuce particulière. Mais c'est très vrai que le platonisme reste pour nous une grande philosophie. Platon, Plotin. Mais lisez d'abord Platon. Puis ensuite Plotin. Il faut avoir lu aussi Plotin. Parce que les pères de l'Église sont très très liés à Plotin. Saint Ambroise cite des passages entiers de Plotin sans dire que c'est de Plotin. C'est merveilleux. Ça montre combien les pères de l'Église considéraient que le néoplatonisme était chrétien. Et le père Bouillet a un peu cette position-là. Le néoplatonisme est quelque chose de profondément chrétien. Pour eux, pas pour moi. Mais pour eux, il y a quelque chose comme ça. Alors la pensée d'Aristote sera de considérer que l'expérience humaine parfaite, c'est une expérience qui implique le jugement d'existence. Et je pourrais dire que pour Platon, l'expérience humaine native, c'est la réminiscence. Se rappeler notre état contemplatif. C'est beau. C'est pas vrai. Mais c'est beau. J'ai été un contemplatif. Vous voyez, quand vous restez trop longtemps dans cette perspective, au bout d'un certain temps, vous n'êtes plus un contemplatif. J'ai été un contemplatif. J'ai perdu cette noblesse. Je suis dans la caverne. Alors ça vous donne une excuse magnifique de ne regarder que les apparences. Je garde la nostalgie de la contemplation. Et garder la nostalgie de la contemplation, ce n'est pas la contemplation. On ne peut pas dire que la philosophie de Platon repose sur le jugement d'existence. Non. Elle repose sur la réminiscence. La grandeur d'Aristote face à Platon, c'est de voir que Platon n'a pas été assez loin. Il est resté dans la forme idéale, c'est l'âme. Il n'a pas su dépasser. Et au fond, il a compris Dieu comme une métaforme, une méta-âme, une méta-substance. C'est l'un, le bien et le beau. Pour Aristote, parce qu'il revient au jugement d'existence, il découvrira l'être premier. Il ne dit pas explicitement, mais les néoplatoniciens comme Proclus le disent, Aristote nécessairement a découvert l'être premier comme créateur. Ne disons pas que c'est saint Thomas qui a fait cela, qui a baptisé Aristote. C'est pas vrai. C'est Proclus. Saint Thomas le redit. Mais le premier, c'est Proclus. Donc un néoplatonicien du 3e siècle après Jésus-Christ. Qui dit que ce qu'Aristote dit sur l'être premier, sur Dieu, montre que nécessairement Aristote a découvert Dieu comme créateur. C'est très beau, ça. Il découvre Dieu créateur, il découvre par le fait même la dépendance radicale de l'âme spirituelle, de l'âme humaine à l'égard de Dieu. Et à partir de là, il découvre l'attitude religieuse. Mais encore une fois, ce n'est pas explicite chez Aristote. Ne dites pas qu'Aristote ait dit ça. Dites que les néoplatoniciens ont dit qu'Aristote avait posé tous les principes pour ça. C'est être précis quand on cite un auteur. Et Aristote comprend, à la suite de Platon, que ce qu'il y a de plus grand pour l'homme, c'est de contempler autant qu'il le peut l'être premier, l'acte pur, le bien absolu, autant qu'il le peut. Il y a une certaine contemplation religieuse. On dit métaphysique, c'est pas juste. Il faut dire religieuse. Il y a une certaine contemplation philosophique, religieuse. Une contemplation naturelle, religieuse. L'homme est naturellement un être religieux. Et donc, naturellement, il aboutit à cette contemplation qui donne un sens ultime à sa vie. Alors, c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. C'est pas commode. Et c'est là où le père Festugière, de temps en temps, c'est aussi quelqu'un qu'il faut lire. Les livres du père Festugière, ce sont des livres à lire, au point de vue culture philosophique. Son livre sur la contemplation de Platon. C'est un très beau livre. Ça se lit facilement. C'est pas toujours très juste, mais c'est beau. Donc c'est bien. Ça donne un peu d'air. C'est sûrement parmi les choses modernes quelque chose de très grand. Bien, vous voyez, Platon, Aristote, Bergson. Bergson, dans les deux sources de la morale, montre la grandeur de l'âme mystique. Alors, c'est ni d'Aristote, ni du néoplatonisme, c'est du Bergson. Mais c'est encore l'âme. Bergson, c'est encore une philosophie de l'âme. C'est en ce sens-là qu'il est très proche de Platon et du néoplatonisme. Et Bergson, parmi les modernes, est quand même un de ceux qui reconnaît la grandeur de la contemplation. Vous voyez, vous avez trois grands philosophes de la contemplation. Il n'y en a pas 36. Parce que immédiatement après Aristote, le stoïcisme n'est plus une philosophie de la contemplation. C'est une philosophie de l'action politique. De l'action au très grand sens. Donc de l'action politique. Et vous avez, mettez le troisième entre deux, mettez Platon, Aristote, Plotin, Bergson. Et là, on touche des sommets dans l'histoire de la pensée philosophique. Ce sont les trois grands sommets. Il n'y en a pas 36. Hein. Les quatre, je veux dire. Quatre grands sommets. Whitehead, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Mais beaucoup moins net que Bergson. Parce que Whitehead a compris aussi que c'était par la contemplation qu'on pouvait rejoindre ce qu'il y avait de plus absolu. Ce qui est intéressant chez Bergson comme Whitehead, ce sont des philosophes qui sont partis d'une perspective positiviste au point de départ et qui l'ont dépassé. Parce que Heidegger ne parle pas d'une contemplation naturelle. Il faut attendre Dieu. Penser l'être. Mais penser l'être, c'est pas penser Dieu. C'est pas contempler Dieu. Alors, Whitehead, je veux dire, Heidegger n'a pas atteint ça. Il reste en attente. Pour lui, il ne peut y avoir de contemplation de Dieu que si Dieu vient au-devant de nous et nous parle. Parce que Dieu, on ne peut le connaître que de l'intérieur. C'est grand par rapport à la transcendance de Dieu, mais ce n'est pas aller assez loin dans l'exigence de l'intelligence humaine. Bon. Face aux athéismes contemporains, aux idéologies athées, nous devons aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit et je le redis, comprendre comment notre intelligence humaine est capable de découvrir l'existence d'un être premier, par là de fonder l'attitude religieuse, une philosophie religieuse, une éthique religieuse, et de montrer comment l'homme religieux ne peut pas se contenter de l'adoration. Si grande que soit l'adoration, l'adoration demeure un point de départ. Il faut aller plus loin. Alors, comment aller plus loin? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où, je crois, on doit, aujourd'hui, face aux idéologies athées, faire une petite réflexion critique. Vous voyez, je crois qu'il y a deux réflexions critiques très importantes pour l'éthique religieuse. La première, c'est pour montrer que ceux qui prétendent que Dieu n'existe pas se mettent le doigt dans l'œil. Philosophiquement, ça n'a pas de sens de dire que Dieu n'existe pas. Plan critique. Parce que ceux qui disent que Dieu n'existe pas donnent à Dieu une signification qui n'est pas celle de Dieu. Que toutes les traditions religieuses récusent ça. Puisque le mot Dieu provient des traditions religieuses. Vous n'avez donc pas le droit de falsifier la signification du beau Dieu. C'est comme on falsifie la monnaie. Il faut considérer, il faut avoir le courage de le dire. Et c'est très important de le dire. Mais comme le psalmiste peut dire, l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Le philosophe peut dire, quand un athée, dans son idéologie athée, conclut Dieu n'existe pas, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc il devient un insensé. Il faut avoir beaucoup plus de respect de l'homme que ne l'a un athée. Ce n'est pas respecter l'homme que d'être athée. On peut dire, je ne sais pas ce que ça signifie. Je n'ai pas découvert la signification de Dieu selon les grandes traditions religieuses. Mais je ne peux pas aller plus loin. Mais au point de vue philosophique, la position qui reste vraie au plan philosophique, c'est l'agnosticisme. Quand j'ai dit Dieu n'existe pas, la position athée n'est plus une position philosophique. C'est une position a priori et affective, indigne d'un philosophe. Je crois que ça, il faut pouvoir le dire avec beaucoup de force. Mais attention, hein. Il faut le dire avec beaucoup de précision. Dire à un athée qu'il est un imbécile, ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas du tout. Il faut dire à un athée, La proposition que vous dites, Dieu n'existe pas, n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est que pour vous Dieu? Parce que s'il dit que Dieu n'existe pas, ça prouve qu'il prend dans sa philosophie le mot Dieu. Vous êtes très net là-dessus. Et puis, alors, vous voyez, ça c'est la réflexion critique. Et dans la réflexion critique, le second moment, c'est de montrer que si Dieu existe, il ne peut être que le Créateur. Et si Dieu est le Créateur, il faut chercher quelle est la marque du Créateur sur tout ce que nous voyons, et spécialement sur l'homme. Et de voir que la marque du Créateur sur l'homme ne peut être que l'exister de l'homme. Ce n'est pas sa nature. Je ne peux parler de l'image de Dieu qu'après avoir découvert Dieu. Une répétition de principe en disant l'homme est créé à l'image de Dieu, donc je vais chercher Dieu à partir de l'image de Dieu. Ce serait une pétition de principe. Donc ça ne vaut rien au point de vue philosophique. Je crois qu'on doit faire la même considération au point de vue critique par rapport à la contemplation. Qu'est-ce que c'est que la contemplation? Qu'est-ce que c'est? La contemplation, la théoria grecque, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors, ne traduisez pas la théorie. Hein? La théoria, vous traduisez théorie. La contemplation, la théorie, ce n'est pas la contemplation. La contemplation, c'est la connaissance la plus parfaite. La connaissance ultime. Ça qui est impliqué dans le mot contemplation, théoria. La contemplation, c'est le regard à l'égard de la réalité. Parfaite. Donc, la personne. Je ne peux contempler qu'une personne. Je ne peux pas contempler une idée. Vous voyez, c'est toute la différence entre la méditation qui existait chez les stoïciens. Les stoïciens, ce sont des méditatifs. Et dans une école philosophique bien tenue, on réclamait tous les jours un temps de méditation. À l'école Saint-Jean, on réclame un temps de méditation tous les jours. Et là, on est dans la grande tradition. La méditation, on médite à partir des idées, à partir des principes, à partir de la communication de la vérité. Alors on médite. La méditation, on peut tous devenir des spécialistes de la méditation. Si on est un peu philosophe, on médite tout le temps. Médite tout le temps, pour ne pas être distrait. Donc la méditation, je peux méditer quand je veux, si je n'ai pas trop mal à la tête. J'appuie sur le bouton, je médite. Je prends un texte, je le médite. Je me concentre et je médite. C'est une question de discipline intérieure. Pour ne pas se laisser prendre au chant du rossignol. Vous voyez, pour ne pas me laisser prendre au petit lapin qui galope, je médite. Je me concentre, une concentration, la méditation, réflexion. La contemplation, c'est un regard intérieur vis-à-vis d'une personne aimée. Donc, c'est ce regard ultime de la connaissance. Pouvons-nous contempler une réalité qu'on ne voit pas? Hein, vous voyez bien. C'est là la question critique, pas mal, assez nette. Pouvons-nous contempler une personne qui demeure cachée? Dieu est un Dieu caché. Nous le disons ouvertement, je n'ai pas eu la vision de Dieu. Vous non plus. Vous ne seriez plus ici. Un Dieu caché, dont l'unique connaissance que nous avons, c'est de son exister. Dieu existe. Mais Dieu, je ne connais pas ce qu'il est. Je connais qu'il est, il existe, il est. Mais je ne sais pas ce qu'il est. Voilà. Pouvons-nous dire qu'il y a contemplation d'une réalité qui nous échappe totalement du côté de l'appréhension? Je n'ai aucune idée de Dieu. Je n'ai aucun concept de Dieu. Concept quantitatif. Dieu, je ne sais pas ce qu'il est. Le quid de Dieu, je ne sais pas. Je sais qu'il est. Donc, j'ai un jugement de l'existence de Dieu. Sans avoir d'idée de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Ça montre que le jugement va plus loin que l'appréhension. Vous voyez alors, hein, tout de suite, tous ceux qui mettent l'appréhension au-delà du jugement, ou sont obligés d'imaginer une appréhension de l'infini, Descartes et tout l'ontologisme. Mais c'est une imagination. Et ne peuvent plus parler de contemplation de Dieu. La contemplation est-elle dans une appréhension ou est-elle dans un jugement? C'est un regard qui est un jugement. On contemple une réalité existante. On ne contemple pas une idée, un principe. Vous voyez, c'est là où je peux comprendre qu'il peut y avoir contemplation réelle d'une réalité que je n'arrive pas à concevoir. Et que j'aime, et que je saisis dans un jugement affectif. L'amour. L'amour remplace l'idée, le concept. Or, cette réalité première, je l'adore. L'adoration est un acte d'amour. Si j'adore cette réalité première, je peux, grâce à cet amour, savoir que cette réalité est présente, plus présente à moi que je ne suis présent à moi-même. Que cette réalité me connaît, que cette personne me connaît et m'aime. Et que pour cette personne, je ne suis pas lointain. Qu'elle me voit dans sa lumière. Et par le fait même, cet amour que j'ai à l'égard de cette réalité qui est une personne, me met dans une proximité vis-à-vis d'elle, que je peux, par le fait même, dans un jugement affectif, la regarder, l'aimer, la contempler. Vous voyez comme c'est important, au plan critique, de saisir cela, que la contemplation n'est pas dans l'appréhension, que la contemplation est dans le jugement. Un jugement qui, normalement, implique une certaine appréhension. Et quand il n'y a pas d'idée, l'amour peut remplacer l'appréhension. Et l'amour me donne la proximité à l'égard de cet être premier. Et me permet de regarder cet être premier. Et de le contempler. De saisir cet être premier dans ce qu'il a de tout à fait premier. De tout à fait divin. Et cette personne que j'appelle Dieu, je suis capable de l'aimer et de la contempler, de la regarder comme une réalité plus présente à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Vous voyez, la contemplation par l'amour est plus une connaissance affective où je saisis la présence de celui que j'aime sans avoir une connaissance claire, précise, quantitative d'elle. L'amour permet le dépassement. Et c'est ça qui permet de comprendre qu'il puisse y avoir une contemplation naturelle de l'être premier, que j'appelle Dieu. Bon. Une fois que j'ai fait cette petite réflexion critique, je peux maintenant dire, eh bien oui, par l'adoration, je peux contempler Dieu. Et je dis bien, par l'adoration. C'est pour ça que la voie d'accès la plus immédiate à la contemplation philosophique de Dieu, contemplation religieuse, c'est par l'adoration. À la différence de la contemplation chrétienne, qui, elle, a une voie d'accès immédiate par la foi. La parole de Dieu me permet d'entrer immédiatement en contact avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Mais la foi ne supprime pas l'adoration. Donc j'ai deux voies d'accès à la contemplation chrétienne, l'adoration et la parole de Dieu. Ce sont les deux grandes voies d'accès. L'adoration et la contemplation. Pas la méditation. La méditation n'est pas une voie d'accès immédiate. Contrairement, vous voyez, à tout ce qui s'est passé à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, la méditation a pris le pas sur l'adoration et sur l'adhésion simple à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à la place d'appeler le temps d'oraison, on dit méditation. C'est très significatif, ça. Et c'est pour ça que des quantités de religieux et de religieuses restent dans la méditation toute leur vie, sans entrer dans l'oraison, sans entrer dans la contemplation. Parce que ils méditent. La méditation, c'est très très bien, c'est excellent, mais ce n'est pas l'oraison et ce n'est pas la contemplation. Alors, cette contemplation religieuse, elle s'appuie sur l'adoration. Et à l'intérieur de cet amour de la créature pour le Créateur, il y a cette soif de regarder, de contempler celui que j'adore. Celui que je reconnais comme mon Créateur et celui que j'adore comme mon Père. Puisque ce Créateur est mon Père, puisqu'il me donne la vie et la vie spirituelle de connaissance et d'amour. Par l'amour, je peux me tenir en présence de celui qui est mon Père, sachant que lui ne cesse de me regarder, sachant que lui est plus présent à moi que je suis présent à moi-même, sachant que lui se donne à moi dans la lumière et l'amour, et je rejoins son don actuel, sa présence actuelle, et dans cette connaissance aimante, je m'arrête, acceptant l'obscurité. Ce n'est pas dans la lumière, c'est dans l'amour que je peux m'arrêter auprès de lui. Et c'est pour ça que cette contemplation religieuse, ce sera une contemplation de la présence, d'immensité. De mon Créateur. Cette présence de celui qui me regarde et qui me voit. Je mets donc tout l'accent sur la présence. Alors qu'au plan chrétien, je mets tout l'accent sur l'amour, sur le don. C'est très proche. Mais c'est dans la foi que je reçois l'amour de mon Père par Jésus. Je m'appuie sur le mystère de la grâce qui me donne une présence nouvelle de Dieu Père, de Dieu Sauveur dans la personne du Christ. C'est pour ça que la contemplation chrétienne ne peut jamais se séparer de l'humanité sainte de Jésus. C'est le propre de la contemplation chrétienne. J'adhère à mon Sauveur qui se donne à moi dans le mystère de la croix. J'adhère à cette sagesse lumineuse, aimante du Christ crucifié. Et c'est dans le mystère du Christ crucifié que je contemple le mystère du Père, le mystère de l'Esprit Saint, le mystère du Verbe. Voyez, l'humanité sainte du Christ se donnant à moi, le cœur blessé de l'agneau, va être le lieu de rencontre avec le Christ. lieu de rencontre, qui est le cœur de Jésus, je ne peux pas le saisir philosophiquement. Je ne peux le saisir que dans la foi. Et donc, ce lieu de rencontre n'existe pas pour le philosophe, pour l'homme. Ce lieu de rencontre par rapport à Dieu créateur, à Dieu Père, c'est l'adoration. Et ce n'est pas l'adoration du Fils bien-aimé, c'est l'adoration de la petite créature. Mon adoration. Je crois que par là, on saisit bien la différence de la contemplation chrétienne qui se fait dans la foi, dans l'espérance et l'amour, qui se fait à travers la grâce et dans la grâce. Et la contemplation religieuse, philosophique, qui se fait à partir de mon adoration. S'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de contemplation. C'est dans cette lumière-là que je devrais comprendre le problème de la liberté religieuse, qui est le problème très actuel pour nous, puisque vous savez que tous ceux qui refusent Vatican II, et maintenant ça vient un refus explicite et de séparation à l'égard de l'Église, jusque-là c'était un refus caché, implicite. Mais maintenant ça devient un refus explicite. C'est le refus d'un concile. Et on ne peut pas être catholique si on refuse un concile. Toutes les hérésies, ça a été toujours à partir d'un concile. Tout le temps. Or, ce concile, Vatican II, n'a voulu condamner personne. Et ce concile, bien qu'il n'ait voulu condamner personne, fait que certains se condamnent eux-mêmes en le refusant. C'est ce qu'il y a de tout à fait nouveau dans ce que, hélas, nous vivons maintenant. Et le refus du concile, c'est à partir de cette affirmation de la liberté religieuse. Et alors, je crois qu'on ne peut répondre à cela que par l'adoration et la contemplation, l'éthique religieuse qui montre qu'il y a la liberté de l'adoration, la liberté de la contemplation, la liberté de la foi. Trois types de liberté qui fondent la liberté religieuse. Je ne peux adorer Dieu que librement. Je ne peux contempler Dieu que librement. Je ne peux croire que librement. Et là, c'est toute la grande tradition de l'Église. L'Église a toujours affirmé ça. Et trois moments de liberté que le Concile réunit en parlant de la liberté religieuse. C'est très très important au plan philosophique. Le concile n'est pas au niveau philosophique. Mais au niveau philosophique, c'est très important de bien montrer ces trois moments de liberté religieuse. Je ne peux pas parler d'adoration sans liberté religieuse. Je ne peux pas parler de contemplation religieuse sans liberté. Et je ne peux pas parler de la foi sans liberté. Donc, trois moments faciles à comprendre. Dieu est un Dieu d'amour qui crée l'homme, son chef-d'œuvre, qui crée l'âme humaine création est un acte libre du côté de Dieu, qui réclame de sa créature spirituelle un acte libre. Si Dieu avait créé par nécessité, il réclamerait un acte nécessaire, qui serait l'adoration. Alors, on obligerait la créature à adorer. On la soumettrait à l'adoration. Oui, l'adoration est une réponse au Dieu créateur. Et si Dieu crée librement, il veut un acte libre. Et c'est pour ça que l'adoration religieuse est un acte libre d'amour. Il n'y a pas d'amour du reste sans liberté. La liberté naît à partir de l'amour. Je n'entends pas.
Le problème de l'enfer.
Alors, c'est autre chose, hein. Tout à fait autre chose. Puisque c'est la foi. Je n'en parle pas dans l'éthique religieuse. Oui. Dans l'éthique religieuse, je ne peux pas parler de l'enfer. Mais je peux parler de la liberté religieuse. Et je peux montrer qu'un homme religieux est toujours un homme libre. Et je ne peux adorer Dieu que librement. Et que l'adoration, la découverte du Dieu créateur augmente ma liberté. Et que la foi augmente ma liberté. Donc il y a trois dépassement de la liberté humaine, éthique, au niveau de l'amour, c'est l'adoration, la contemplation